France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Babi Yar, histoire et mémoire d'un massacre nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, Babi Yar fut un nom sans histoire et sans mémoire. Au lendemain de la guerre, dans ce ravin, aux abords de Kiev, où des dizaines de milliers de personnes, en majorité juives, ont été assassinées, il n'y avait rien. Ni monument, ni stèle, ni fleurs. L'eau et les saisons avaient drainé le sang et les eaux. Les herbes sauvages avaient recouvert les charniers. Seuls les arbres, témoins des fusillades, étaient encore là. Vous parler de Babi Yar aujourd'hui, c'est raconter les horreurs perpétrées pendant ces deux jours de septembre 1941 à Kiev et qui se sont répétées ici et là sur l'ensemble des territoires occupés par les nazis à l'est de l'Europe. Ici et là, les mêmes gestes, les mêmes sons qui se répètent, des pelles qui creusent la terre, une foule au pas, des corps qu'on déshabille, les cris et les pleurs, des enfants comme des adultes, des tirs de mitrailleuses qui résonnent à travers les rues et les champs alentours, et puis la terre jetée sur les corps. C'est ce que les historiens appellent la Shoah par balle. Pas tous d'ailleurs, il y a débat autour de cette notion. Mais qui étaient ces hommes, ces femmes et ces enfants dont on a voulu effacer toute trace? Et qui étaient les assassins? Je dois vous prévenir que ce que vous allez entendre est souvent insoutenable, mais telle est la réalité et Affaires sensibles a vocation d'être l'écho du réel, précisément. Notre invitée aujourd'hui, Marie Moutier-Bitan, maîtresse de conférence à Caen, à la chaire d'excellence Holocaust and Genocide Studies, auteure du livre et autrice du livre La Shoah des champs, édité par Passé Composé. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jean Bulot, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Kiev, 1941, premier jour de l'été. À la veille de la guerre, 850 000 personnes vivent dans la capitale de l'Ukraine, alors République soviétique. Comme un quart des habitants de la ville, Dina Pronicheva est recensée comme juive. Elle a 30 ans, dont 10 passés au bras de Victor. Ensemble, ils ont deux enfants, une fille de 3 ans, un fils d'un an à peine. Dina est comédienne et travaille au théâtre des marionnettes de la ville. Qu'a-t-elle fait de son dernier jour de paix ? À des centaines de kilomètres de là, en Allemagne, à Bad Schmiedeberg, Paul Blobel se prépare, lui, à entrer en guerre. Il a 47 ans, dont 10 passés dans les sections d'assaut nazi. SS Standartenführer, il vient d'être nommé à la tête du Sonderkommando 4A. Dans la nuit, comme près de 3 millions de soldats allemands, Blobel prend la route vers l'Est. Ce 22 juin à l'aube, sur toute la frontière entre le Reich et l'URSS, la terre, comme le ciel, se sont mis à trembler. À la surprise générale, des milliers d'avions et de pièces d'artillerie allemands pilonnent les positions soviétiques et ouvrent des brèches pour les chars et les hommes. Quelques jours plus tard, par lettre, ils sont des milliers de la Wehrmacht à décrire à leurs proches cette invasion baptisée « Opération Barbarossa ». Parmi eux, Heinz.
Le tonnerre des armes résonne au loin, plongeant les environs dans la poussière et la chaleur. Par chance, la nuit était claire. Nous pouvions rouler sans phare. La seule lumière à l'horizon était l'incendie d'un village. Les ruines des maisons brûlaient dans les faubourgs. Les habitants n'avaient pas fui. De nombreux soldats se tenaient sur une petite place et maltraitaient un juif déjà condamné. Il gisait sur le sol, suppliant. On disait qu'il avait été complice de la mutilation de deux aviateurs allemands qui avaient dû faire un atterrissage d'urgence. Peu de temps après, j'entendis quelques tirs de pistolet. Puis, je continuais ma route en moto.
L'opération Barbarossa a certes des objectifs militaires et stratégiques, dont Leningrad, Moscou ou encore les plaines agricoles ukrainiennes. Mais pour ces soldats, faire la guerre en 1941 à l'Est relève d'une autre dimension. C'est une guerre d'anéantissement, une quête vers la destruction totale de l'ennemi, militaire comme civil. Un objectif dont les contours se dessinent par une série d'ordres écrits à la veille de l'offensive. Parmi eux, l'abolition des sanctions pour crimes commis contre la population. Un épouvantable permis de tuer, d'assassiner des gens sans armes. C'est un appel au crime de masse, avec impunité à la clé. D'ailleurs, dès le début de l'offensive, divers groupes mobiles, assistés d'unités auxiliaires locales, parcourent l'arrière du front des territoires occupés et ils traquent, chassent, torturent et exécutent hommes, femmes, enfants, en particulier les juifs, cible numéro un de la tragédie qui commence. Les Einsatzgruppen, groupes d'intervention, sont les unités les plus féroces de ces dispositifs d'anéantissement. Sous les ordres directs du général SS Reinhard Heydrich, il est composé de 4 unités, A, B, C, constituées chacune de 500 à 1000 hommes. La C opère en Ukraine, elle est sous le commandement d'Otto Rasch, et sous son autorité, il y a le Sonderkommando 4A de Paul Blobel. La ville de Sokal, près de Lviv, marque le début de leur road trip barbare. Dès leur arrivée, les soldats de Blobel rassemblent les hommes juifs, puis les déplacent dans une briqueterie désaffectée. Ils font ensuite sortir par petits groupes jusqu'à une tranchée. Les condamnés sont placés de dos. Au signal, les soldats les exécutent. Certains visent la tête, d'autres le cœur. En 2 heures, 117 vies sont balayées par les tirs. Le lendemain, 183 personnes périssent de la même manière. Dans un rapport, les assassins qualifient leurs victimes d'actifs communistes et agents du NKVD. Ils étaient tous juifs. L'opération Barbarossa est un cimetière à ciel ouvert. À l'arrière, jour après jour, les massacres s'intensifient. Des années plus tard, certains tireurs acceptent de confesser leurs crimes.
Imaginez une fosse avec des gens qui se tiennent au bord et face à eux, des soldats. C'était nous. Et on leur tirait dessus. Et ceux qui étaient touchés tombaient dans la fosse.
Pouvez-vous me dire à quoi vous pensiez et ce que vous ressentiez au moment où vous tiriez ?
À rien. Je me disais seulement, vise comme il faut, pour ne pas rater ta cible. C'est tout.
C'est tout. Pendant tout ce temps-là, vous ne ressentiez rien pour tous ces civils juifs sur lesquels vous tiriez.
Non.
Pourquoi ?
Parce que ma haine des juifs est trop grande. Ça ne changera jamais.
Le chef suprême des SS, Heinrich Himmler, se rend lui-même sur place afin de voir de ses yeux l'application de ses ordres sur l'arrière du front. Le 15 août 1941, il est à Minsk, en Biélorussie, où les hommes de l'Einsatzkommando Art ont la charge des fusillades. Himmler souhaite tout voir, tout entendre. Il observe, note, félicite les soldats dans un brouhaha de gémissements et de tirs. D'une tranchée à l'autre, un opérateur de cinéma l'accompagne. La circulation de la bobine sera limitée au cercle des chefs, car si les nazis laissent entendre les cris et les témoignages, ils refusent de montrer les charniers. Non par crainte d'effrayer l'ennemi, mais bien pour éviter les désertions au sein des rangs des SS. Cet été-là, dans les salles de cinéma sous domination du Reich, ce que l'on voit, c'est l'effrayante marche en avant. Les chars, les sidecars et les camions ne semblent jamais s'arrêter. Le paysage défile, la poussière se mêle aux fumées des incendies de villages et de maisons. Les montages alternent les épaves encore fumantes des tanks et les colonnes de prisonniers, tête basse. Certains d'entre eux sont filmés plein cadre. Et ils ont toujours les mêmes traits. Hirsutes, petites lunettes, nez crochu, une caricature antisémite en 24 images secondes. À Paris, au même moment, l'exposition nazie, le juif et la France ouvre ses portes et déploie sa propagande antisémite, à l'image de ce reportage.
13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Ce 14 septembre 1941, Kiev est encerclé de toutes parts. Des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge sont pris au piège. Tout est allé si vite, tellement vite. Les chefs militaires soviétiques comme la population, ont été comme foudroyés face à la déferlante de la Wehrmacht. À Kiev, des dizaines d'habitants, dont de nombreux juifs, ont quitté la ville. Dina, la jeune comédienne du théâtre des marionnettes, et sa famille n'ont pas pu prendre le train. Pendant plusieurs jours, terrés, ils ont dû entendre les bombes tomber sur leur ville. Et puis, le 19 septembre, un silence glaçant a devancé l'entrée des troupes allemandes, dont les hommes du Sonderkommando Art A de Paul Blobel. Les panneaux changent de langue, le drapeau à la croix gammée est hissé sur les toits et une nouvelle police ukrainienne est constituée. Dès les premières heures de l'occupation, la chasse aux Juifs est ouverte. Le 20 à Darnitsia, sur l'autre rive du fleuve Dniepr, des dizaines de Juifs sont massacrés. Le 22, ordre est donné d'arrêter tous les habitants juifs de sexe masculin à Kiev. Le 24, la chasse s'interrompt après une série d'explosions dans les centres-villes.
Kiev brûle. Plusieurs quartiers de la ville sont en flammes. Les Soviets, avant de se retirer, avaient placé dans certains immeubles des bombes incendiaires à retardement. Grâce à une action méthodique, les pompiers allemands du génie ont pu bientôt se rendre maîtres du sinistre.
Avant la chute de la ville, des bataillons de sabotage de l'armée rouge ont piégé des bâtiments. Deux états-majors de la Wehrmacht y perdent la vie. La faute est rejetée immédiatement sur les Juifs, coupables, selon les nazis, d'avoir fomenté les attentats. En vérité, l'événement sert surtout de prétexte pour accélérer l'anéantissement. Le 25 septembre, avec l'aide des auxiliaires de police et des gardiens d'immeubles, les descentes et les rafles s'accélèrent. Certains sont exécutés en pleine rue, puis laissés sur place. Dans le même temps, les différents chefs des Einsatzkommando, des SS d'Ukraine, des officiers de la Wehrmacht comme de la police, multiplient les réunions. Et collectivement, ils actent la mort de tous les Juifs de la ville. Le plan pour y parvenir se résume au mode opératoire suivant. Rassembler, déshabiller, exécuter, recouvrir, puis recommencer. Le 28 septembre, 2000 affiches sont placardées sur les murs. Tous les Juifs de Kiev, femmes et enfants compris, sont convoqués le lendemain à 8h à différents points de rassemblement près du cimetière juif. Tous doivent emporter leurs papiers d'identité, leurs objets précieux, ainsi que des vêtements chauds, du linge de corps, de la nourriture. La rumeur dit qu'ils seront déplacés vers des camps de travail. Sur l'affiche est indiqué également que les absents et les fuyards qui se retrouveront dans un autre lieu seront fusillés. Alors que faire? Parmi les personnes convoquées, Dina Pronicheva, mariée à un Russe, elle est pour les forces occupantes avant tout juive. En ce petit matin du 29 septembre 1941, elle embrasse ses deux enfants et espère entrer dans la journée. Avec ses parents et sa sœur, elle intègre les rangs de la foule des convoqués. L'ambiance est évidemment très lourde. Des camions chargés de soldats, armes au poing, ne cessent de faire des allers-retours. Certains conducteurs leur sourient. Sur les trottoirs et aux fenêtres, les habitants observent la mise au ban de ces pauvres gens. Il y a ceux qui applaudissent, oui, ceux qui tournent la tête. Et puis il y a tous ceux qui sont abasourdis. Vladimir Artobolevski, lui, n'était pas convoqué. Mais il n'a jamais oublié ce jour-là. Et 5 ans plus tard, à la barre d'un tribunal, il se souvient d'une femme pétrifiée.
Je passais devant une maison. L'entrée principale était grande ouverte. Un chariot attendait devant, attelé à un cheval, et une femme s'y tenait debout. Une très vieille femme. Ses cheveux gris étaient décoiffés. Elle semblait au comble du désespoir. Ses pauvres bras décharnés étaient levés et elle criait quelque chose. Je ne sais pas quoi, car c'était en yiddish. Mais il émanait de tout son corps un effroi si terrible, un désespoir humain si extrême que je n'imaginais pas qu'il puisse être exprimé plus fortement. Un tel martyr, un tel calvaire, je ne pensais pas que ça puisse exister.
La longue colonne qui traverse la ville semble sans fin. La tête du cortège dépasse la gare de marchandises, puis arrive aux abords du cimetière juif de la ville. Tous connaissent cette longue pente qui mène à ce ravin nommé Babillard, le ravin de la grand-mère. Autour d'eux, de plus en plus d'hommes armés, certains s'expriment en ukrainien. Alors que la gare s'éloigne, tous comprennent. Aucun train ne partira aujourd'hui. Rebecca Schwarzmann avait alors 18 ans. Elle a un enfant, une sœur, des parents. Elle est aussi dans la file, à attendre. En 1993, elle se souvient au micro de Daniel Mermet et Zoé Varier pour France Inter. Elle se souvient de ce moment où elle refuse de mourir.
Je suis sortie de la file et je suis partie et j'ai laissé tous les autres.
J'ai oublié
tous mes parents, j'ai oublié tous mes proches, je l'ai sauvée, lui, je me suis sauvée, moi, et je suis partie. Et je suis partie au cimetière juif
et
je me suis cachée là-bas.
C'était très calme.
Vous imaginez, il n'avait que 6 mois, il prenait encore le sein, il buvait encore mon lait.
Кормила. Было такое. И мы с ним всю ночь просидели там, в этом клипу.
Et toute la nuit, on est resté là. Ce qui nous a sauvé, c'est mon sein, parce que je lui ai donné le sein et il a pas crié.
Pour ceux qui n'ont pas pu s'enfuir, la suite est un long calvaire. Aux abords du ravin, sous les aboiements des chiens, ils reçoivent les premiers coups. Les soldats frappent sans distinction, femmes, enfants, vieillards. Nina a aussi compris que la mort est autour d'elle, alors elle tente de négocier auprès d'un auxiliaire ukrainien. Elle présente son livret de travail et jure qu'elle n'est pas juive, qu'ils font erreur. Il la croit. Nina est sortie de la file, d'autres l'accompagnent. On l'installe en haut d'un monticule et on lui demande d'attendre.
Sous mes yeux, ils ont lâché les chiens sur un vieillard qui n'avait pas la force de grimper. Je ne sais pas où ils l'ont emmené. Je n'ai pas vu. J'ai plongé mes yeux, j'ai plongé mon visage entre mes genoux et suis restée comme ça jusqu'à la tombée de la nuit. Je ne pouvais pas voir les atrocités qui se déroulaient sous mes yeux. J'ai juste vu qu'on les mettait tout nus, en rang, presque sur une seule file, et qu'on les emmenait par un étroit passage.
Mettre à nu, c'est réduire en l'occurrence l'humain à la peau sur les os. Sous les ordres ukrainiens et allemands, ces pauvres gens abandonnent alors leur ultime bagage. Une valise, un portefeuille, des bijoux, puis ils retirent leurs vêtements. Certains plient leurs affaires. Les enfants, eux, comme par réflexe, demandent à leur père et leur mère leurs bras comme dernier refuge. Nina, elle attend toujours, les yeux fermés, recroquevillée. Elle suit le tempo du massacre, juste par le son. Des corps qu'on frappe, des ordres qu'on hurle en allemand et en ukrainien. Des prières murmurées en yiddish. Et puis au loin, des salves de tir. Les heures passent, les bourreaux sont relayés. Combien ont été affectés au tir? Plus d'une centaine sans doute. Paul Blobel a-t-il lui-même tiré? Peut-être. Les tireurs sont placés à différents endroits. Certains descendent, ils tirent tout en marchant sur les corps. Après les mitrailleuses, il y a les coups de pelle. Dans le dispositif, ces hommes ont la charge de recouvrir les cadavres de chlorure de chaux, de sable et de terre. À la tombée de la nuit, un officier allemand interpelle les gardiens sur le petit groupe dans lequel patiente Dina et il leur donne qu'ils soient tous fusillés.
On nous a mis en rang sur une petite saillie où on pouvait à peine tenir. Ils se sont mis à fusiller tout le monde. J'ai fermé les yeux, j'ai serré les poings, j'ai tendu tous mes muscles et j'ai sauté avant d'être atteinte. Cette chute m'a paru une éternité, mais je suis bien tombée sur les cadavres, pas blessée. Un moment après, quand les tirs ont pris fin, j'ai entendu les Allemands descendre dans le ravin pour achever ceux qui étaient blessés. Ils ont commencé à nous couvrir de terre. Ils faisaient ça sans lésiner. Je sentais que je commençais à étouffer, mais j'avais peur de bouger. Il me semblait que 2-3 soupirs et ce serait fini. Je me suis dit, plutôt une balle que mourir enterrée vivante. J'ai commencé à bouger. Je ne savais pas qu'il faisait très sombre. J'ai réussi avec mon bras gauche à remonter, puis à reprendre ma respiration et à dégager la terre. Et ensuite, après plusieurs respirations, j'ai inspiré le plus possible, j'ai réuni mes dernières forces et je me suis sortie de là.
La nuit l'a sauvée, comme ce jeune garçon qui s'effrayait un chemin à travers les corps et la terre. Il se faufilait comme un serpent, se souvient-elle. Alors, ensemble, ils rampent des heures à travers les herbes, puis se séparent. Dina frappe à la porte d'une maison. On lui donne un peu d'eau, puis on lui demande de partir. Combien se sont sauvés de ces deux jours de fusillade à Babi Yar ? Difficile à dire. En tout cas, selon les rapports officiels, les hommes du Sonderkommandofir A, de Blobel donc, avec l'aide de deux bataillons du régiment de police sud et de la police auxiliaire ukrainienne, ont abattu, en deux jours, 33 771 juifs. Désormais sous terre, il ne reste que leurs vêtements. Les soldats se servent d'autres tris. De ses vêtements et des derniers objets empilés fouillés aux abords du ravin, demeurent quelques photos capturées par un photographe de la Propaganda Company, Sechsunder Sieben und Dreißig, Johannes Heiler. 29 clichés en couleur pris en octobre, sans doute. Où on y voit la rue d'abord, où des corps de personnes fusillées n'ont pas été déplacés, la foule de passants, mais aussi le ravin, avec des prisonniers soviétiques qui ont été réquisitionnés pour égaliser la terre. Pendant des mois, plusieurs milliers de victimes supplémentaires, juives ou non, sont abattues à Babi Yar ou gazées dans les camions qui les y conduisent. Combien de corps, combien de martyrs, la terre de Babi Yar a-t-elle pu recouvrir ?
Mit a größer Freud, was is mir gekommen die Show? Was is mir gekommen die Show? Oi, wie ich geh ja rein in Stadt und frag, ob meine eigene entfört mir als keiner Znito. Oi, wie ich geh ja rein in Stadt und frag, ob meine eigene entfört mir als keiner Znito. Bin ich geblieben stehen mit a größe Gewein, in Herz not geäffen sich a Wind, in Herz not geäffen sich a Wind. Oh, in a Wasserseite gib a Kuch, stell mir sich vor, mein Weib mit mein einzig Kind. Oh, in a Wasserseite gib a Kuch, stell mir sich vor, mein Weib mit mein einzig Kind. Was ist das für ein Zorn auf uns geworden? Was ist das für ein größer Gsar? Was ist das für ein größer Gsar? Oi, von dem größten Zorn seinen viel Menschen weggefahren, die Verbliebene seinen weg im Babi Yar. Oi, von dem größten Zorn seinen viel Menschen weggefahren, verbliebene seinen Weg in Babi Yar.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tragédie de Babi Yar.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Novembre 1943, d'une occupation à une autre. Après deux ans d'occupation allemande, l'armée rouge entre à Kiev. Et les panneaux changent de langue. Les habitants saluent les nouveaux uniformes. Ils sortent de deux ans d'occupation et de conquête nazie sur les terres soviétiques où ils laisseront près de 2 millions de fantômes. En novembre 1942, une commission extraordinaire d'État est créée afin d'établir les dégâts et les atrocités perpétrées par les nazis sur les territoires de l'URSS. Sur chaque terre qu'ils libèrent, les soviétiques interrogent les témoins, photographient les lieux, sondent la terre et invitent parfois la presse à rendre compte. À Kiev, c'est à Babi Yar précisément que les investigations ont lieu. Dès novembre 1943, des journalistes américains sont conviés à marcher dans le ravin où les attendent des témoins. Devant eux et devant une caméra du régime, Elfin Bilkis, un rescapé du camp de Siretz, raconte.
C'est ici, à cet endroit de Kiev appelé Babi Yar, ici même. Ici, des soldats faits prisonniers en 1941 par les Allemands, sous peine d'être exécutés, ont été forcés par la Gestapo de déterrer ces cadavres et de les brûler à ciel ouvert, sur des bûchers, que ces tortionnaires fascistes nous ont obligés à fabriquer. Ici, dans ce ravin de Babi Yar, régnait une odeur pestilentielle. On nous obligeait à les sortir et, sous peine d'être tués, à les empiler sur ces bûchers. Ils en amenaient d'autres ici, dans des camions à gaz. Des femmes nues et des enfants asphyxiés dans les camions. Durant tout le temps où on a travaillé là, on nous a obligés à brûler environ 100 000 soviétiques. Les Allemands voulaient effacer les traces de leurs crimes.
Les éliminer, tous, et surtout qu'il ne reste nulle trace de leur vie et de leur mort. Telle était la consigne partagée par les soldats en uniforme allemand. Pour effacer les traces des massacres, le pouvoir nazi a lancé dès les premiers mois de l'année 1942 l'opération Action 1005, prise en charge par Paul Blobel, l'ancien chef du Sonderkommando Führer A, bourreau de Babi Yar. Sa mission était la suivante, ouvrir les fosses et faire disparaître les corps. Pour cela, Blobel a constitué des commandos composés de détenus juifs, de prisonniers de l'armée rouge, de partisans et de civils. À Babi Yar, Jakob Kapper est l'un d'entre eux. Extrait de l'émission de France Inter, là-bas si j'y suis, en 1993.
Quand je suis arrivée à Babi Yar et quand j'ai vu ce que c'était que Babi Yar, j'ai crié et j'ai dit « Fusillez-moi, je ne veux plus vivre ». Et au moment où j'ai crié ça, il y a un Allemand, un des chefs des Allemands qui était là, qui m'a foncé dessus et qui m'a donné un grand coup dans la mâchoire et il m'a décroché la mâchoire. Alors, j'avais la bouche en sang, ils m'ont donné une pelle et j'ai commencé à creuser. Et à sortir ces cadavres et à les brûler.
Les autres hommes ?
Tout le monde a fait la même chose, tout le monde a pris sa pelle et tout le monde a creusé. Parce qu'on nous forçait à faire ça, on était obligés de le faire. Et l'Allemand, il avait une bouteille de vodka devant lui parce que l'odeur de cette viande qui brûlait était insupportable et sans arrêt, il prenait des goulets comme ça de vodka.
De Babi Yar à Minsk, jusqu'à la fin de la guerre, on déterre, on brûle et on broie les corps des fusillés. La solution finale de la question juive, selon la terminologie nazie, bien sûr, est une politique publique. Oui, elle est pensée, mise en débat, administrée, testée et laisse des traces dans les rapports, les cahiers de comptes, les courriers de l'administration. Pour Action 1005, deux sujets ont été mis en débat, la crémation et les os. Après plusieurs tests, la technique des rails est choisie et enseignée aux unités. Une rangée de corps, une rangée de bois, aspergée d'essence, de pétrole et de goudron, et ainsi de suite. Le feu est contenu et rapide. Pour les os, les nazis utilisent des moulins à café industriels. Plus de 3000 ont été achetés à la maison de torréfaction Brinkmann. Commerciaux, industriels, ingénieurs, c'est toute la société nazie qui a participé à l'anéantissement. Quand cela a-t-il pris fin ? À l'arrivée de l'armée rouge, 2 millions de victimes de la Shoah ont été assassinées dans les territoires soviétiques occupés par les nazis. La plupart ont été fusillés. Les autres sont morts asphyxiés dans des camions à gaz, bien de faim, de froid ou de maladie dans les ghettos. Dina Politcheva, elle, a survécu. Elle a changé d'identité, de lieu. Son mari, lui, a été arrêté, puis exécuté. Leurs deux enfants ont été placés par des amis dans un orphelinat. Et Dina, il retrouve en 1944. 1944, l'année du débarquement en Normandie et de la dernière année de la guerre. À l'est, l'armée rouge pénètre dans les territoires polonais. Elle découvre les centres de mise à mort, Majdanek, Sobibor, Treblinka ou encore, et bien sûr, Auschwitz, où des déportés témoignent. Mi-avril 1945, la bataille de Berlin débute. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. La guerre prend fin en Europe. Un mois plus tard, le 8 juin, Paul Blobel, le commandant de l'Einsatzkommando Führer A et le chef d'Action 1005, est arrêté par les Américains. Comme d'autres, il attend désormais son procès. Dans toute l'Europe, la guerre est désormais jugée et se poursuit dans les cours de justice. À Kiev, en janvier 1946, 15 hommes sont sur les bancs des accusés. Il y a des Allemands, mais aussi des collaborateurs locaux. Parmi les témoins, Dina Pronicheva, dont vous avez entendu des extraits de la déposition. Un an plus tard, à Nuremberg, le procès des Einsatzgruppen sous la direction du procureur Benjamin Ferencz débute.
Notre but n'est pas la vengeance, et nous ne recherchons pas non plus une juste rétribution. Nous demandons à ce tribunal d'affirmer, par une action pénale internationale, le droit de l'homme à vivre dans la paix et la dignité, indépendamment de sa race et de sa foi. Le massacre de civils sans défense dans le cadre d'une guerre peut être qualifié de crime de guerre, mais ces massacres relèvent d'un autre crime, un crime plus grave, un génocide.
22 hommes sont jugés, 14 sont condamnés à mort, dont Otto Rasch et Paul Blobel, les deux bourreaux de Babillard. Malgré le procès, le souvenir est occulté par les autorités soviétiques, ou du moins obstrué. Un monument est érigé en la mémoire des victimes soviétiques, oui soviétiques, car le pouvoir à Moscou refuse de révéler l'identité juive des victimes. Comme si tous les fusillés étaient des partisans soviétiques. Pire, en 52 et jusqu'en 61, la municipalité de Kiev autorise le déversement dans le ravin de la boue d'une usine de briques. Et de nouveau, on a voulu recouvrir les charniers. Pourtant, personne n'a oublié. Année après année, des poèmes sont écrits, des livres sont publiés, des manifestations interdites ont lieu. Dans les bagages des dissidents, le souvenir des victimes, en majorité juives de Babillard, traverse les frontières. Quand on occulte l'histoire, la mémoire devient bavarde et bruyante. En 1991, après la chute du mur et l'indépendance de l'Ukraine, l'identité juive des victimes est enfin reconnue et officiellement. Année après année, de nouveaux monuments sont sortis de terre, mêlant les mémoires et les histoires des différents fantômes de Babillard. 30 ans plus tôt, le poète russe Evtushenko avait écrit ceci en fouillant le sol de ce ravin.
Sur Babillard bruissent les herbes sauvages. Les arbres regardent, terribles juges. Tout ici hurle en silence. Et moi, tête nue, je sens lentement mes cheveux grisonner. Et je suis moi-même un immense hurlement silencieux au-dessus de ces mille milliers de morts.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tragédie de Babillard, dont nous parlons avec notre invitée Marie Moutier-Bitan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes maîtresse de conférence à Caen, à la chaire d'excellence Holocaust and Genocide Studies, et autrice notamment de La Shoah des champs, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée, un livre édité par Passé Composé. Le titre d'abord, Shoah des champs, vous n'avez pas utilisé Shoah par balle, et je disais tout à l'heure en introduction que même si c'est une notion à laquelle on est très habitué, la Shoah par balle, pas en opposition mais en complément malheureusement des chambres à gaz, c'est remis en cause par certains historiens, dont vous d'ailleurs, parce que Shoah des champs, pourquoi ?
Alors, cette expression Shoah par balle a été forgée par un journaliste pour désigner l'étude du père Patrick Desbois à partir de 2004. Ce prêtre catholique a effectivement mené des missions d'entretien pour documenter ces fusillades de juifs en Union soviétique occupée, donc qui ont lieu entre 1941 et 1944, et qui, comme vous l'avez rappelé, ont fait environ 2 millions de victimes, soit un tiers des victimes juives de la Shoah. Et cette expression « choix par balle » est finalement une porte d'entrée intéressante parce que pour le grand public, elle est très visuelle. On imagine effectivement une fusillade.
Alors, on imagine, c'est qu'on voit, il y a des images.
Voilà, au bord d'une fosse, c'est extrêmement clair. Et souvent, les étudiants ou les enseignants l'utilisent. Et je les encourage à continuer à utiliser cette expression. Mais sachez que, scientifiquement, elle n'est pas tout à fait satisfaisante, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une Shoah, avec les mêmes acteurs, et on ne peut opposer les méthodes de tuerie, ça n'a pas de sens.
En fait, on ne les oppose pas. Je le disais en complément, hélas, oui, parce que pendant que les chambres à gaz fonctionnaient, cette Shoah, du ravin notamment, fonctionnait également, en parallèle.
Tout à fait. C'est-à-dire que les fusillades massives de juifs ont commencé d'ailleurs dès septembre 39, lors de la campagne de Pologne, et évidemment s'intensifient à partir du 22 juin 41 et de l'opération Barbarossa. Et à partir de la mise en place des centres de mise à mort, et notamment des camps de l'action Reinhardt, les fusillades se poursuivent. C'est-à-dire que durant toute l'année 42, c'est le moment des plus grandes fusillades à l'Est, et notamment de la liquidation de tous les ghettos biélorusses, ou encore dans le centre de l'Ukraine.
Alors, est-ce qu'il y a que des juifs, des populations juives, ou est-ce qu'ils massacrent aussi dans ces ravins les opposants, les résistants, les tziganes, enfin toutes les cibles des nazis?
Les nazis vont éliminer tout d'abord les agents du judéo-bolchevisme. C'est vraiment leur priorité. Donc d'abord la population juive, et dans les représentations nazies, faire la guerre contre l'Union soviétique, c'est faire la guerre aux juifs, et en tuant les juifs, on va accélérer l'effondrement du régime bolchevique. Néanmoins, par exemple, à Babi Yar, il y a des fusillades de population rom, extrêmement importantes, des fusillades de résistants, de civils qui sont simplement suspectés de sabotage, etc. Il y a environ 100 000 victimes à Babi Yar, dont évidemment une majorité de juifs, mais pas seulement. Et évidemment, les prisonniers de guerre constituent aussi environ 3-4 millions de victimes sur le sol soviétique, par la faim, par les exécutions, par le travail. Et c'est aussi des victimes qui ne sont pas du tout mises en avant par le régime soviétique.
Il faut rappeler que la Seconde Guerre mondiale, globalement, y compris sur le front avec les Japonais, a fait plus de victimes civiles que militaires. Ça, c'est une première chose. Et ces massacres par balles, ces tueries de masse, elles se font essentiellement dans les territoires occupés par les nazis, à l'Europe de l'Est. C'est essentiellement l'Europe de l'Est, c'est une spécificité de l'Europe de l'Est occupée.
Oui, c'est-à-dire que des fusillades ont lieu de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Mais les Allemands ne sont pas les seuls acteurs de ces fusillades. Et j'aimerais mentionner en particulier l'armée roumaine, qui a sous sa responsabilité de très nombreuses fusillades, je dirais plus de 200 000 victimes juives.
Donc des gens qui sont habillés en costume SS?
Pas du tout, c'est l'armée tout. Roumaine, l'armée tout à fait.
Régulière roumaine.
L'armée régulière roumaine qui a en charge une partie du territoire ukrainien, notamment la région d'Odessa, organise notamment un énorme massacre à Bogdanivka en décembre 1941, où plus de 45 000 juifs d'Odessa, mais aussi de Bessarabie et de Roumanie, sont exécutés par balles et brûlés immédiatement. Car les nazis et leurs alliés se rendent compte qu'ils peuvent tuer rapidement. Mais la question des corps, en revanche, est très problématique pour eux, pour des questions tout d'abord d'hygiène, mais aussi, et ça vous l'avez souligné, pour effacer toutes les traces de ces massacres. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de crimes.
Et au sein des Einsatzgruppen, on a des Ukrainiens, pour le coup, qui portent l'uniforme SS, oui ou non?
Oui, tout à fait.
Beaucoup? Dans quelle proportion? Qu'est-ce qu'on sait?
Écoutez, il y a plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui rejoignent les rangs de la Waffen-SS et qui combattent aux côtés des Allemands, notamment la division SS galicienne.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Marie Moutier-Bitant, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Caen à la chaire d'excellence Holocaust and Genocide Studies, et vous êtes l'autrice de La Shoah des champs, l'extermination des juifs en Union soviétique occupée. Alors, l'une de ses particularités, c'est que tout ça se passe sur l'espace public. Hein. Ces massacres se déroulent aux abords des villes, au vu et au su de tout le monde. Et je disais tout à l'heure que c'était quasiment une politique publique.
Tout à fait. Il faut imaginer qu'il y a plus d'un millier de sites de fusillade sur tout ce territoire. Et donc, au vu de la population locale, c'est-à-dire que les victimes juives sont arrêtées chez elles, sont parquées soit dans une grange, soit dans les bâtiments du kolkhoz, dans leur village, et ensuite exécutées dans les champs à proximité, ou bien des cours d'eau asséchés, ou des ravins comme à Babi Yar. Et les voisins assistent à ces fusillades, mais aussi vont y prêter main forte. C'est-à-dire qu'il y a des réquisitions organisées pour rassembler une main-d'œuvre locale qui va creuser la fosse, combler la fosse. Dans le cas de Babi Yar, il s'agit de prisonniers de guerre soviétiques, mais dans les petits villages, c'est vraiment les paysans qui viennent avec leurs pelles et qui vont recouvrir les corps. Et comme on l'a vu avec Dina, il y a encore des personnes qui sont vivantes dans la fosse, hein, et eux sont réquisitionnés pour recouvrir ces corps de terre. Ils sont aussi réquisitionnés pour amener les victimes jusqu'au site, parce que les enfants, les personnes âgées peuvent difficilement se déplacer, hein, surtout quand les sites sont à 1 ou 2 kilomètres à pied, et aussi vont être mobilisés pour collecter et trier les biens des victimes. Car le pillage est absolument central dans cette entreprise génocidaire.
Mais ce sont des gens qui sont contraints par l'occupant, ils ont peur. Ou ce sont des gens portés par un antisémitisme qui les pousse jusqu'à ça? J'imagine qu'on ne peut pas globaliser, il y a plusieurs types de personnes, mais bon.
Il y a déjà un héritage soviétique de la réquisition, mais aussi dans les campagnes polonaises, où il est courant de réquisitionner des paysans pour toutes sortes de travaux pour déblayer les routes, etc., avant même l'occupation nazie. Néanmoins, dans certains cas, il y a des réquisitionnés qui sont payés. Soit ils sont payés par la municipalité, soit ils se font payer en récupérant des biens des victimes. D'autres vont dire qu'ils ont agi par peur de représailles, mais je peux vous affirmer qu'aucune personne qui aurait refusé un travail de réquisition n'a été exécutée, on n'a aucune trace de ça.
Alors Babi Yar est un lieu de massacre parmi d'autres, mais quand j'ai dit parmi d'autres, ça veut dire que, hélas, il y en a eu d'autres. Mais pourquoi celui-là attire peut-être plus l'attention que les autres?
Babi Yar, donc fin septembre 1941, c'est la première fois que les autorités nazies décident d'exterminer l'ensemble de la population juive d'une ville, et à une telle échelle, depuis le 22 juin 1941. Donc c'est vraiment un cap qui est franchi dans l'extermination des juifs soviétiques. Et à partir de Babi Yar, toutes les régions de l'est de l'Ukraine qui vont être traversées par l'Einsatzgruppe C, il n'y aura plus de ghetto de créer. La population juive, dès l'arrivée de l'armée et de l'Einsatzgruppe, va être rassemblée, immédiatement fusillée.
On va parler de la mémoire maintenant, en écoutant une archive, parce qu'en France aussi, il a fallu du temps pour que cette Shoah trouve une place dans cette mémoire collective et audiovisuelle, notamment grâce aux travaux du père Patrick Desbois. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs, c'était en 2008 sur le plateau de Pièces à Conviction. Il revient ce jour-là sur le devoir de mémoire, précisément, et le besoin de monuments sur les lieux de massacre.
Oui, mais ce n'est pas important symboliquement. C'est important parce que les corps sont toujours déterrés par les voisins pour chercher l'or. Il faut se rendre compte où on est, hein. Il n'y a pas de mémorial comme ici dans tout le pays. Donc c'est important, je dirais, parce qu'il faut que ces morts reposent en paix, que dans la tradition juive, ils sont considérés comme des saints, comme vivants, et que leurs corps sont jetés aux chiens. À Zhytomyr, il y a un chien qui dort dans la fosse commune et qui vous attaque quand vous approchez. Voilà la situation. C'est important aussi que le fait qu'ils soient juifs soit réécrit sur la terre d'Ukraine, car ce n'est nulle part. Et puis aussi, je dirais, c'est important pour que les familles aient un lieu pour faire le deuil et que le village se souvienne qu'avant, il s'appelait Shalom Alerem, il s'appelait d'un nom Gottlieb, etc. Des noms, je dirais, en yiddish, et les petits-enfants ne le savent même pas. Donc on propose en ce moment des petites expositions pour les écoles primaires ukrainiennes et les institutrices acceptent facilement dans l'école afin que les enfants sachent qu'avant, il y avait d'autres habitants, des juifs, qui ont été tués un par un et qui gisent là-bas au bout de la rue, sous le fossé.
Qu'est-ce que ça vous inspire et parlez-moi de Patrick Desbois, en effet, avec qui vous avez travaillé pendant 10 ans au sein de l'association Yad Nounoum.
Tout à fait. L'objectif était déjà de localiser ces fosses communes, hein, parce que comme il le dit, il y a environ la moitié des fosses communes d'Ukraine qui ne sont pas marquées, qui ne sont pas mémorialisées. Et évidemment, il y en a très peu qui sont même protégées, c'est-à-dire protégées avec des dalles de béton, etc., pour empêcher le maraudage dont le père Desbois parlait. La démarche est aussi de proposer, quand cela est possible, une victime, un nom, pour retrouver aussi de la dignité. Parce
oui.
que
bah oui, bien sûr.
Pour les fusillades à l'Est, on n'a pas de liste de déportation, on n'a pas de nom. On s'est déjà retrouvé face à des fosses communes, par exemple, de juifs qui avaient été auparavant évacués, et on n'a pas leur identité. On sait qu'ils sont 1000, 2000, et on n'a rien. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de redonner déjà une histoire, un destin à ces personnes et faire en sorte que ces lieux ne soient pas des parkings de supermarchés ou des pâturages pour les chèvres, comme c'est très souvent le cas.
Bien sûr, merci infiniment Marie Moutier-Bitton. Je rappelle le titre de votre livre, il est important. La Shoah des champs, l'extermination des juifs en Union soviétique occupée. Et puis je peux encourager aussi les auditeurs à lire Les Hommes ordinaires, qui est vraiment une bible pour cette affaire-là, signé Christopher Browning. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Babillard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Cédric Diallo.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.